Bonsoir, vous êtes sur FPP 106.3. De 20h30 à 21h30, c'est Zoom Écologie. Ce soir, l'équipe du premier jeudi du mois vous propose un décryptage des enjeux de la conférence des Nations Unies de Rio+20 et de l'économie verte, sous le signe de laquelle était en partie placée la conférence. Cette émission est présentée par Céline et Sarah et réalisée avec la participation de Renaud. Nous nous rendrons à la journée de débat « La nature est un bien commun, non à leur économie verte » qui s'est tenue à Paris, en juin, en préparation de Rio+20. Nous ferons ensuite une immersion dans le blabla durable avec le chanteur MC Duval. Et pour finir, nous demanderons à Christophe Aguiton, membre d'ATAC, qui s'est rendu à Rio, quel bilan on peut faire de cette conférence du côté de l'économie verte et du côté des organisations militantes qui se sont retrouvées au sommet des peuples en marge de la conférence officielle. Pour commencer donc, nous allons écouter les interventions de Geneviève Azam d'ATAC et de Sylvain Algeran des Amis de la Terre à une table ronde animée par Jeanne Lindgaard, journaliste à Mediapart. Avant tout, on peut s'interroger sur le sens de cette mobilisation contre l'économie verte et les mécanismes de financiarisation de la nature qui se mettent en place, mais dont on perçoit encore mal les effets. Enfin, peut-être surtout en France, comme nous le verrons. Nous écoutons Jeanne Lindgaard qui ouvre le débat.
Le moment dans lequel se passe cette journée de mobilisation aujourd'hui est très particulier et représente des difficultés politique, économique évidemment, mais politique. Moi, je vois un risque, en gros, de triple décalage, à la fois de cette journée de mobilisation et à la fois de la mobilisation qu'une partie des associations présentes ici dans la salle et dans la campagne autour du sommet alternatif des peuples qui se déroulera de manière à peu près en même temps, mais comme une alternative donc au sommet Rio+20, moi je vois un risque de triple décalage dans ces positionnements, et c'est ce triple décalage que j'aimerais présenter un peu comme une invitation à la discussion. C'est plus des questions que des affirmations, mais comme une invitation à la discussion entre nous. La première chose, c'est qu'il y a évidemment un décalage entre la discussion que nous allons avoir aujourd'hui et le contexte politique français, qui est celui d'une campagne législative qui suit une campagne présidentielle et qui fait que globalement, on ne peut pas dire que la question du rapport à l'écologie, au modèle de développement et plus généralement la confrontation économie-nature soit au cœur des discussions nationales. Donc il y a un problème de se rendre audible. Ça, c'est la première chose. On ne peut sans doute pas y faire grand-chose de ce point de vue. La deuxième chose me semble plus difficile, mais j'espère qu'on ressortira cette journée avec des pistes de réponse. C'est la question de porter aussi fortement une critique de l'économie verte, alors que, en quelque sorte, 2012 aura vraiment été l'année du fossile. Les exemples sont nombreux. Le Canada qui a définitivement tiré un trait sur le respect du protocole de Kyoto. Les États-Unis qui connaissent une véritable nouvelle ruée vers l'or noir, gaz et huile de schiste. Des émissions de gaz à effet de serre qui ne cessent d'augmenter. Un découplage entre croissance économique, activité économique et consommation énergétique qui ne s'est toujours pas fait. Bref, c'est la victoire des hydrocarbures, des fossiles, dans ce contexte-là. La critique de l'économie verte, je ne dis pas qu'elle est inutile, elle me semble, pour le moins, pas complètement répondre à la situation énergétique directe. Et le troisième risque de décalage, c'est que finalement, l'économie verte, dans son sens le plus inquiétant, tel qu'on va le présenter et le discuter aujourd'hui, c'est-à-dire toute sa dimension de valorisation du capital naturel, nouvelle phase d'expropriation, même nouvelle révolution industrielle, hein, comme c'est décrit dans le petit livre que ATAC vient de publier sur le sujet. Bon, ben, cette économie verte, dans sa dimension la plus radicale et la plus violente, finalement, en partie aujourd'hui, elle n'existe pas encore tout à fait. Ou en tout cas, elle existe de manière théorique. Elle existe dans des rapports, elle existe dans des projets. Et là encore, je ne dis pas que ces projets et ces rapports ne sont pas critiquables, mais pour partie, ils ne sont pas mis en œuvre. Et donc, on voit bien la difficulté à la fois des mobilisations sur des choses qui sont en partie en projet. Et ça pose également la question de la mobilisation finalement des énergies et des stratégies politiques face à un ennemi qui, quelque part, n'est pas encore tout à fait là. Et je rajoute à ça un dernier élément qui ressort quand même de plus en plus, c'est que cette économie verte, qui est décrite comme une sorte d'enfer privé, de privatisation, est tout de même de plus en plus un objet de politique publique. Et que toute critique de l'économie verte, là encore, pourrait être finalement en raccord avec ce qui se met en place, les stratégies énergétiques qui se mettent en place dans les pays, que ce soit l'Union européenne, les États-Unis, l'Allemagne, mais aussi finalement la France, doit prendre en compte cette dimension importante du rôle de l'État et de l'espace public. Et donc, du coup, ça m'amène à une série de questions. Quelle mobilisation, dans ce contexte-là, autour de Rio+20, sachant que, quand on parle franchement avec eux, les négociateurs et autres observateurs, plus personne n'attend grand-chose, en réalité, de ce sommet. Donc, du coup, quelle mobilisation créer autour de ça ? Deuxième chose, quel mouvement, quel processus d'émancipation attendre de cette critique de l'économie verte dans le contexte précédemment décrit ? N'y a-t-il pas un risque, là encore c'est une question, que cette critique passe à côté d'autres critiques aussi fondamentales et importantes, celle par exemple de ce que Timothy Mitchell, l'historien américain, appelle la « carbon democracy », c'est-à-dire « démocratie carbone », ce régime politique issu du pétrole, dans lequel finalement l'économie a été constituée comme une barrière entre la société et la nature. Ou encore, comment comptez-vous articuler vos mobilisations avec la critique de l'extractivisme, de la souveraineté énergétique, qui est l'un finalement des dogmes fondateurs de cette nouvelle ruée vers l'or noir aux États-Unis. On va forer tous les gaz et les huiles de schiste parce qu'on veut être indépendant énergétiquement. Quelle réflexion sur les décentralisations des services publics, l'ouverture à des acteurs privés citoyens, je sais pas, Enercoop, énergie partagée et autres, et à la question de la socialisation des énergies. Donc, je ne dis pas du tout que ces différents thèmes sont en opposition ou en contradiction avec la campagne économie verte. Il me semble simplement qu'ils ne sont pas forcément, en tout cas automatiquement, raccord avec cela et qu'il y a sans doute là un espace de discussion. Et donc, nous allons passer tout de suite la parole à nos intervenants. Je vais présenter la première intervenante, Geneviève Azam, d'ATAC, qui nous a rendu le service de se plonger dans les textes de négociation du sommet Rio+20. Et Dieu sait que ce n'est pas un exercice ni facile, ni très réjouissant.
Et effectivement, je vais parler des enjeux de la conférence officielle. Certes, ces textes ne sont pas, ce sont pas des romans, très agréables à lire, mais de mon point de vue, il est absolument nécessaire de se les approprier pour savoir exactement de quoi nous parlons et éviter les discordes ou les faux problèmes par rapport à la critique de l'économie verte. Effectivement, nous avons été alertés il y a plus d'un an, sur le fait que ce sommet de l'ONU était placé sous le signe de l'économie verte. Et donc, nous avons essayé de comprendre pourquoi, désormais, l'ONU, instance politique internationale, pouvait mettre au sommet de son agenda l'économie verte. L'ONU, ce n'est pas l'Organisation mondiale du commerce. Ce n'est pas l'organisation du patronat mondial non plus. L'ONU, dans l'acception que nous pourrions avoir, c'est vraiment une organisation politique qui est là pour se soucier des droits des peuples, des droits sociaux, des droits humains, des droits collectifs et des droits privés, et éventuellement aussi de nouveaux droits, droits environnementaux ou droits de la terre. C'est ainsi que nous concevons l'ONU. Et il est vrai que c'est un peu surprenant pour une telle organisation d'avoir l'économie verte au sommet de l'agenda. Alors, ce fut un processus assez simple qui a conduit finalement à mettre en avant l'économie verte. Et je vais m'appuyer à la fois sur les textes qui sont parus de l'ONU, du PNUE sur l'économie verte et du dernier projet de déclaration de l'ONU. Les déclarations ne s'écrivent pas au dernier moment. Elles sont en discussion depuis plus d'un an. Et on a maintenant le dernier brouillon de l'ONU. Ça s'appelle « Le futur que nous voulons ». Nous avons le texte quasiment définitif avec, entre crochets, ce qui reste en discussion. Et je disais tout à l'heure à Jeanne qu'en fait, le futur que nous voulons, pour nous, il est entrecroché, quasiment. Et ces crochets ont fort peu de chances, malheureusement, je crois, d'être intégrés dans le texte officiel. Bien. Donc je vais essayer de vous dire rapidement ce qui est entrecroché et qui fait débat, donc, au-delà de ce qui a déjà été acté. D'abord, par rapport à 1992, il y a un changement très important dans ce Rio 2012. 1992 était, pour ce qui est de ce sommet-là, a été un petit miracle, je dirais, multilatéral, avec beaucoup de contradictions. Mais malgré tout, en 1992, il y a eu une sorte de compromis international, un compromis, je répète, avec beaucoup d'ambiguïté, que certains ont appelé même un compromis social-démocrate, qui s'était donné pour objectif le développement durable avec les trois piliers, l'économie, le social, l'environnemental. Ces trois piliers devant cheminer absolument ensemble et sans que un prenne le dessus sur l'autre. C'était ça le développement durable. J'ajoute tout de suite que ce développement durable était pensé dès Rio 92 comme étant possible avec une croissance économique globale, c'est-à-dire que ça s'inscrivait. Ça s'inscrit toujours dans la proclamation que le développement n'est possible que s'il y a croissance économique globale. C'est encore dans le texte d'aujourd'hui. C'était en 1992. C'est sans doute là qu'il y a un sacré problème. Bien. Aujourd'hui, les choses se présentent tout à fait différemment. Et oui, je voulais vous dire, ce sommet de 92, est arrivé après la chute du mur de Berlin. Dans un monde qui semblait s'unifier, c'était la mondialisation heureuse, la globalisation, il n'y avait plus de problème Est-Ouest, il n'y avait plus de problème Nord-Sud, puisque désormais les pays du Sud, en s'intégrant au marché mondial, allaient pouvoir connaître le développement, donc une espèce de consensus multilatéral en 1992. Et un principe très important en 1992 qui a été acté, c'est le principe que face aux questions écologiques, il y a une responsabilité commune de tous les pays, quels qu'ils soient, mais différenciée, en fonction de la responsabilité historique dans les dérèglements des écosystèmes. Ceci était dans les déclarations de 1992, même si George Bush, père à l'époque, avait dit que le mode de vie américain ne se négociait pas. Mais malgré tout, il y a eu une poussée qui était... En même temps, et beaucoup l'ont oublié, se négocier en parallèle... se négocier l'Organisation mondiale du commerce, qui a débouché en 1994, et où déjà apparaît dans le cadre l'accord général sur le commerce des services, est apparu le fait de la libéralisation des services environnementaux. De même, dans l'accord sur la propriété intellectuelle, l'accord TRIPS, il y a de fait la mise en place de la privatisation du vivant, des droits de propriété sur le vivant. Tout ceci se fait en parallèle. Et, bien sûr, le monde va beaucoup changer, on le sait, en 20 ans. En tout cas, en 2012, à Rio, il n'est plus question de multilatéralisme. Il n'est plus question de multilatéralisme. Et si Rio 92, finalement, était encore un reste d'une vision social-démocrate qui existait dans les années 70, 2012 se situe clairement dans l'univers néolibéral. Et les fameux trois piliers que nous avions... après 1992, ces trois piliers, il n'en reste qu'un. Ceci s'est construit de 1992 à 2012, ça ne s'est pas fait uniquement pour l'ONU. C'est la logique économique, la rationalité économique qui a vaincu à l'échelle du monde, globalisation économique, globalisation financière, etc. Et si bien qu'il ne reste plus du développement durable que l'économie verte. Alors vous allez me dire, c'est vert. C'est vrai que, alors souvent, moi j'ai écrit, le vert n'est pas une couleur dans ce cas-là. Le vert n'est pas une couleur, parce que signifie l'économie verte telle qu'elle est donnée dans les rapports de l'ONU? Alors je voulais vous dire, tout ce qui est entrecroché ici, tout ce qui évoque une responsabilité différenciée dans le texte, par des voix et refusée par les États-Unis, refusée par le Japon, refusée par l'Australie, refusée par le Canada et plus ou moins refusée par l'Union européenne. Ça dépend des... L'Union européenne a toujours une politique méli-mélo. Bon, donc c'est très très clair quand on lit le texte. Ça, c'est un premier point. Donc deuxième point, c'est la question des droits. L'économie verte telle qu'elle est promue là, part du principe que si aujourd'hui nous avons une crise écologique aussi sévère, c'est que la nature produit des services en très grande quantité. Elle purifie l'eau, elle permet la pollinisation spontanée, elle capte le carbone, elle travaille, la nature, c'est une entreprise qui travaille, qui produit des services écosystémiques. Ces services écosystémiques, ils sont dégradés. Pourquoi sont-ils dégradés ? Eh bien parce qu'ils sont gratuits. Dans l'idéologie néolibérale, tout ce qui est gratuit potentiellement est sujet à être dépensé, à être géré de manière non rationnelle. Et donc, ce qui court dans tous les 600 pages du rapport de l'UNEP sur l'économie verte, c'est l'idée que pour arriver aujourd'hui à mettre en œuvre vraiment ce qu'ils appellent toujours le développement durable, il faut une économie verte qui consiste à trouver un système d'évaluation économique de ces services écosystémiques. Bien, voilà ce qu'est majoritairement l'économie verte. Et effectivement, si on veut mettre un prix aux services écosystémiques, il faut savoir qu'il faut mettre des droits de propriété. Ce qui explique que dans ce texte, tout ce qui évoque des droits, des vrais droits écologiques, le droit à l'eau, le droit de l'accès à l'énergie, est entrecroché. On a substitué aux droits humains fondamentaux, aux droits sociaux, aux droits écologiques, le droit de propriété privée sur la nature, qui par lui-même permettrait une bonne gestion de la nature, une gestion rationnelle, permettrait la conservation des ressources pour leur utilisation future et par ricochet réglerait les problèmes sociaux et écologiques. Et donc on retrouve ce problème des droits, l'Union européenne s'est illustrée quand même dans les amendements qu'elle a proposés par le fait de mettre entrecroché le droit à l'eau qui avait été acté par l'ONU, par l'Assemblée générale de l'ONU, et dans le premier brouillon figurait le droit à l'eau qui a été barré. Bon. Donc, mais effectivement, et c'est pour ça que la critique de l'économie verte que nous faisons est fondée là-dessus, c'est que nous mettons, nous, en avant les droits sociaux, les droits humains, des droits écologiques, voire le droit de la terre dont nous pensons qu'il faut discuter aujourd'hui avec un tribunal international qui puisse juger les crimes écologiques contre l'humanité. Bon, tout ça, nous en discutons. Ça ne veut pas dire que nous ne pensons pas qu'il faut une transition écologique dès maintenant. Et que pour faire cette transition écologique dès maintenant, nous avons besoin des entreprises. Il ne s'agit pas de dire qu'avec des simples déclarations, nous allons engager. Mais ces entreprises doivent être soumises à des normes, soumises à des réglementations. Et j'arrive au dernier point. Contrairement à Rio 1992, la déclaration vraisemblablement que nous aurons de Rio 2012 ne portera sur aucune réglementation, aucun engagement concret, aucune contrainte, aucun engagement contraignant. Ce sera du déclaratif. Aucun engagement contraignant, et ceci est lié donc à ce que je vous ai dit précédemment. Donc voilà, je ne veux pas abuser. Oui, je voulais vous dire aussi, ce qui est systématiquement aussi barré ou refusé par tous ces grands pays, c'est l'idée de la souveraineté sur les ressources. Souveraineté des États, souveraineté des peuples, souveraineté des peuples indigènes. Ceci, à Rio 92, dans la Convention sur la diversité biologique, qui comportait déjà un petit verre dans son fruit, puisque à Rio, en 92, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la biodiversité est considérée comme une ressource. Il n'était pas dit qu'on allait donner un prix à cette ressource, mais elle est considérée comme une ressource. Et que donc on doit la conserver pour pouvoir l'utiliser. Elle est conçue strictement par rapport à l'utilisation que nous en faisons, pas en elle-même. Donc déjà, il y avait un petit verre dans le fruit. Mais dans la Convention sur la diversité biologique, il y avait malgré tout la reconnaissance de la souveraineté des peuples sur leurs ressources. Là, ça disparaît totalement, d'autant que dans le chapitre sur l'économie verte, c'est en filigrane l'éloge du libre-échange, puisqu'il est question de technologies vertes qui doivent pouvoir s'échanger sans aucune barrière, etc., etc. Et cela explique pourquoi, en Amérique latine en particulier, nombre de mouvements sociaux n'ont pas du tout les mêmes hésitations que nous par rapport à l'économie verte. Parce que l'économie verte, ils la vivent. Elle est déjà là. J'en reparlerai tout à l'heure. Il y a déjà des expériences d'économie verte sur le carbone, sur les questions de déforestation, sur l'évaluation des forêts en fonction des tonnes de carbone qu'elles peuvent séquestrer, etc., etc. Elle existe. Et en Amérique latine, la mobilisation est forte par rapport à l'économie verte parce qu'ils sont très sensibles à l'aspect libre-échange. Or, ils ont eu des mobilisations importantes sur tous les traités de libre-échange qu'il y a eu dans le cadre des relations avec les je ne sais plus comment elle s'appelle, l'ALENA. Il y a une sensibilité très forte et donc les mouvements d'Amérique latine sont beaucoup plus avancés que nous dans la critique de cette économie verte-là. Donc nous avons besoin d'une transition écologique rapide. Maintenant, nous serons toujours dans le cadre du capitalisme. De mon point de vue, on ne peut pas attendre un socialisme, je ne sais quoi, appelons-le comme on veut, dans 50 ans, pour se dire, ah ben, à ce moment-là, on commencera la transition. Non, la transition doit commencer maintenant. Mais simplement, nous avons besoin de règles et de normes absolument strictes au niveau international.
Il me semble qu'avec l'économie verte, on rentre dans une autre phase où là, on est sur... où on s'attaque au processus, aux services rendus par la nature, au cycle biologique, que ce soit de l'eau, du carbone. C'est pas très simple, en tout cas, je trouve, à rendre compte. Mais Geneviève, tu évoquais à un moment des expériences d'économie verte. Ce serait peut-être bien d'en donner quelques exemples. Il y a peut-être notamment l'exemple de la biomasse sur lequel on pourrait revenir en quelques mots.
Sur la biomasse, c'est pour moi l'essentiel de ce qu'ils appellent l'économie verte. Aujourd'hui, et c'est dans les textes de l'ONU, vous savez qu'aujourd'hui, nous devons engager absolument une transition énergétique. Alors, souvent, quand on dit transition énergétique, on a l'impression de se retrouver entre nous et qu'il n'y a que nous qui parlons de transition énergétique. C'est faux. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises, tous les grands dirigeants de la planète savent qu'il faut engager une transition énergétique. La question, c'est quelle et comment ? Parce que la société du post-pétrole, tout le monde, nous, on a même du retard sur les grandes entreprises multinationales, qui depuis longtemps savent qu'on va vers des problèmes de rareté concernant les énergies fossiles, etc. Donc la société post-pétrole, dire ça, ce n'est pas faire preuve de conscience écologiste, c'est à l'agenda des grandes firmes transnationales aujourd'hui. Donc on doit sortir de la société du pétrole, des énergies fossiles, on doit lutter contre le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre. Et donc on mise aujourd'hui sur la production d'énergie à partir de la biomasse. La biomasse, c'est tout ce que la nature produit, si vous voulez. Bon, je vais prendre un exemple, peut-être les agrocarburants sont une amorce de ce que pourrait être une économie fondée sur la biomasse. C'est là qu'il y a une véritable révolution industrielle. C'est une transformation énergétique qui a à peu près la même force que celle que nous avons eue à la fin du XVIIIe siècle, quand on est passé des énergies qui étaient à ce moment-là renouvelables, aussi bien l'eau, le vent, etc., qui étaient utilisées massivement, on est passé au charbon. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de passer à la biomasse, c'est-à-dire à tout ce qui constitue ces éléments. Il y a là-dedans, évidemment, tous les végétaux. Mais il y a aussi le plancton qu'il y a dans la mer, etc., qui sont capables de capter en particulier le carbone. Aujourd'hui, on estime que près de 80% de la biomasse internationale n'a pas été encore utilisée. Cette biomasse, elle est essentiellement localisée dans les pays du Sud. Essentiellement. Et nous avons cramé une grande partie de notre biomasse. Et donc, que lit-on dans les textes ? Pas dans celui-ci, mais dans les textes préparatoires. On dit... On doit pouvoir exploiter aujourd'hui cette biomasse qui se trouve massivement dans les pays du Sud. Et par ce biais-là, nous allons permettre aux pays du Sud de percevoir des revenus sur une richesse immense dont ils disposent. Le problème, c'est qu'il faut l'évaluer, cette biomasse. Jamais, dans aucun texte, on ne trouve l'idée que nous avons un besoin urgent de la biomasse qui est dans les pays du Sud pour maintenir notre modèle de production et de consommation. Jamais on ne le trouve ainsi. Et toujours, c'est au nom du développement qu'on nous dit on va exploiter la biomasse, ce qui va engendrer des revenus pour les pays du Sud. Alors, je vous donne un autre exemple. Ça, c'est un enjeu très important. Et ce ne sont plus seulement les simples multinationales qui se sont accaparées le vivant. Mais là, on a un panel extraordinaire de multinationales, de fonds financiers, qui aujourd'hui investissent des milliards de dollars dans la recherche concernant la biomasse. On sait aussi que la biomasse qui existe encore ne sera pas suffisante. Donc aujourd'hui, c'est tout ce qu'on appelle la biologie synthétique pour reproduire de manière artificielle cette biomasse dont nous allons avoir besoin. À ce titre-là, je vous recommande vraiment un numéro excellent d'un groupe qui s'appelle ETC Group. Vous le trouvez sur Internet, ETC Group, G-R-O-U, voilà. Vous le trouvez sur Internet et vous avez les documents. Ils ont fait tout un numéro spécial sur qui s'approprie l'économie verte, qui contrôle l'économie verte. Et c'est en français, en anglais, etc. Vous le trouvez sur Internet. On l'a beaucoup cité dans le livre d'attaque, où vous avez toutes les multinationales, tous les fonds financiers qui aujourd'hui investissent sur la capture de la biomasse internationale. Et ça, il y a aussi un documentaire de la Banque mondiale qui est génial sur les océans. Ah oui, qui est extraordinaire. Il y a la source dans le livre d'attaque aussi, où on montre comment les océans qui contiennent une partie très importante de cette biomasse sont un enjeu central pour les équilibres écosystémiques. Donc, ce n'est pas abstrait. Ce n'est pas abstrait aujourd'hui l'économie verte. Et Rio plus 20 va être un moment de construction, parce que c'est lent, effectivement, c'est compliqué, mettre en place des marchés de la biodiversité, des marchés des services écosystémiques, c'est très, très complexe, parce qu'il faut les isoler, les services écosystémiques. La nature est compliquée, il y a plein d'interdépendances. Bon, donc il va falloir les isoler, ce n'est pas simple. Il va falloir les évaluer dans des pays, en plus, où il n'y a pas tous ces systèmes-là. Or, quand on lit bien ça, on se rend compte qu'il s'agit de mettre en place un cadre d'évaluation, un cadre de contrôle, d'évaluation, d'estimation et de classification des services écosystémiques pour, dans un deuxième temps, pouvoir les mettre en marché. Ça, je pense. Et quand on parle d'économie verte, dans le cadre de l'ONU, parce qu'économie verte, c'est sympathique, effectivement. C'est sympathique si on pense qu'il s'agit de demander à l'économie de respecter les lois de la biosphère. À ce moment-là, c'est sympathique, l'économie verte. Mais l'économie verte, telle qu'elle est décrite, analysée dans les textes de l'ONU, c'est pas ça. C'est la nature qui est intégrée dans les cycles de l'économie. Et le vert, c'est ça. L'économie se verdit en impliquant les flux des services écosystémiques dans les flux économiques. C'est ça, l'économie verte. Et c'est ça que nous avons à expliquer. Parce que oui, si l'économie verte consiste à réglementer l'économie pour qu'elle soit soucieuse et respecte strictement les lois de la nature, les cycles de la nature, banco, nous sommes d'accord. Mais c'est l'inverse là qui se produit.
Nous venons d'entendre Geneviève Azam d'Attaque et nous allons maintenant écouter Sylvain Angerand des Amis de la Terre pour une présentation des alternatives que portent les mouvements sociaux et militants qui luttent pour une réelle justice environnementale et sociale.
Je vais ouvrir avec une image qu'on donne bien souvent. Si tout le monde vivait comme un Européen, il faudrait 3 ou 4 planètes. On n'a qu'une seule planète, et qu'il y a des gens qui surconsomment, on est en train complètement d'accaparer l'espace écologique d'autres personnes. Et donc, il y a une minorité d'êtres humains qui, aujourd'hui, est en train d'occuper l'espace écologique, les forêts, les océans. Et le problème, il est là, réellement. C'est qu'on n'aura jamais 3 ou 4 planètes. Et il faut apprendre à partager celles qu'on a. Alors, justement, est-ce que c'est de ça dont il va être question à Rio ? Je ne pense pas. J'ai lu également le texte des négociations que Geneviève a présenté. Il y a, entre autres mots, dans les crochets, le mot équitable. C'est dommage, parce qu'effectivement, c'est un mot-clé. Et le mot équitable, il est entre crochets. Alors pourquoi nous, on est formellement opposés à cette idée d'économie verte ? C'est que on a l'impression que ça va nous faire perdre 20 ans, comme le développement durable nous a fait perdre 20 ans, avec un mot qui va être un véritable écran de fumée et qui va nous empêcher de poser les vraies questions. Des vrais mots simples, faciles à comprendre. Équitable, c'est facile à comprendre. Chaque être humain a le droit à la même part du gâteau. Des mots simples également. Limite. L'urgence de fixer des limites et de reconnaître des droits. Les droits, Aujourd'hui, c'est le grand oublié effectivement des textes de Rio. Je ne vais parler de la question du droit à l'eau qui a disparu. On parle d'accès à l'eau. Oui, enfin, il y a beaucoup de droits, le droit à la terre. Le droit, ce qui se passe sur les peuples, la question des peuples autochtones. Pendant 20 ans, il y a eu de fantastiques progrès, avec notamment la reconnaissance par les Nations Unies du droit, avec la déclaration des droits des peuples autochtones, qui reconnaissait une forme de droit qui leur permettait d'avoir accès à leurs forêts, à leurs terres, basée sur le droit d'usage. Eh bien, tous ces droits-là se sont véritablement effondrés avec les textes en discussion, puisque aujourd'hui, on est en train de vouloir, en voulant fixer un prix, en voulant donner une valeur à la nature, fixer un prix, on pose la question de qui est capable de payer ce prix. Et en posant ça, on sait qu'implicitement, ça ne va pas être les gens les plus pauvres qui vont payer ce prix. Ça va être les entreprises qui ont les moyens, ceux qui ont le plus d'argent. Donc on risque de les exclure, et c'est ce qui est en train de se passer. Ça aussi, c'est très concret. On pose également la question de qui va essayer de capter cette rente. Et dans de nombreux pays, il y a eu des progressions en termes de droits, au sens où, dans la plupart des pays du Sud, c'est des pays qui sont issus de la colonisation, où, au sortir de la colonisation, les États ont nationalisé la plupart des terres. Et il y avait un processus, j'ai envie de dire, de rétrocession, de reconnaissance progressive des droits des peuples autochtones ou des communautés pour gérer les terres par eux-mêmes. Et là, avec cette nouvelle flambée, cette nouvelle volonté de mettre un prix à la nature, les États ont la tentation de stopper ce mouvement et de dire non, on garde le contrôle pour pouvoir mieux rétrocéder après des entreprises et capter cette rente. Donc ça, c'est également extrêmement important. Donc les droits, les limites... également, c'est quelque chose d'assez simple. Aujourd'hui, on consomme trop. En tout cas, il y a une minorité de gens sur la surface de cette planète qui consomment trop. Et en France, effectivement, comme dans la plupart des pays développés, globalement, y compris les classes moyennes, on consomme trop. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on accapare l'espace écologique d'autres personnes. Alors, l'idée d'espace écologique, le concept d'espace écologique, c'est quelque chose qui nous paraît important, simplement pour rendre visible cette idée de limite. Prenons l'exemple du papier. On a estimé, mais bon, tout est discutable, que pour faire vivre une démocratie, pour pouvoir avoir accès à l'éducation, il faudrait une quantité raisonnable de papier, de 20 à 30 kg de papier par personne et par an. Donc ça serait satisfaisant pour avoir des livres, pour pouvoir... voilà. En France, on est plutôt de l'ordre d'une consommation de 250 à 300 kg de papier par an. Donc on explose une limite. Et ça se traduit par quoi ? Pas par le fait qu'on ait coupé des arbres sur Vénus ou sur Mars, mais que sur notre planète, parce qu'on n'en a qu'une seule, on est en train de planter des eucalyptus à croissance rapide partout en Amérique latine, d'expulser des gens pour ça, pour alimenter l'Europe. Donc là, la notion de limite, c'est vraiment ça. C'est pas abstrait, c'est très concret. Si on surconsomme, c'est qu'on bouffe l'espace écologique de quelqu'un d'autre et on empêche d'autres populations de pouvoir répondre à leurs besoins fondamentaux, leurs droits. L'eucalyptus, c'est pour les papetiers, c'est une plante miracle. Pour les communautés, ils l'appellent l'arbre de la soif. C'est un arbre qui peut pousser en 7-8 ans. Ouais. 300 litres d'eau par jour. 300 litres d'eau par jour, parce qu'il n'y a pas de miracle dans la nature. Et donc, quand vous vivez à côté d'une monoculture d'eucalyptus, vous n'avez plus d'eau. Vous n'avez plus d'eau pour cultiver, pour boire. Et donc, la surconsommation des uns, encore une fois, empiète sur le droit des autres à vivre. Et donc, cette idée de limite et de droit, qui définit pour nous le concept d'espace écologique, elle est fondamentale. Elle est fondamentale et elle n'est pas présente à Rio. Les mots de limite et de droit sont sans cesse bafoués. Les mots équitables sont sans cesse mis entre crochets. Qu'est-ce qui permet d'exploser les limites ? Ce sont ces nouveaux systèmes c'est nouveau. Malheureusement, c'est pas si nouveau que ça, les systèmes de compensation. Alors, on connaît bien la compensation carbone, on en discutera dans les ateliers, mais c'est en train de se généraliser. C'est-à-dire qu'on a commencé avec la compensation carbone, et à Rio, on risque d'avoir une vraie convergence avec la compensation biodiversité, la compensation eau. La compensation eau, c'est un autre exemple, encore une fois, qui permet de rendre visible le fait que lorsqu'on dépasse une limite, on empiète sur le droit de quelqu'un d'autre. En Inde, dans l'état du Kerala, Coca-Cola construit une immense usine. Et puis tant qu'à faire, pour pouvoir alimenter tout le marché indien, on fait qu'une usine, et puis une grosse usine, quoi. Donc il faut beaucoup d'eau. Ça crée des tensions sur place. Et les agriculteurs, les communautés se mobilisent et arrivent à faire fermer cette usine. Coca-Cola donc quitte le pays et revient 2 ans plus tard avec sous le bras le WWF et un système génial de compensation eau. Pour chaque litre d'eau utilisé par Coca-Cola, Coca-Cola donne de l'argent au WWF qui va restaurer une zone humide dans un autre pays ou financer une campagne pour que vous fermiez le robinet quand vous brossez les dents, quoi. Et donc on est clairement dans le problème où on dépasse la limite et on empiète sur le droit de quelqu'un d'autre. Le droit à l'eau, c'est quand même fondamental. Comment peut-on imaginer un système de compensation eau, quoi? C'est des trucs... voilà, ça c'est ce qui est en train de se vivre, c'est-à-dire que le dépassement de la limite, il est en train de se structurer à Rio. Et c'est pour ça que pour nous, l'économie verte est inacceptable. On refuse de structurer ces inégalités. Et donc, pour nous, il faut d'abord décrypter ça et, effectivement, après, proposer d'autres pistes. Donc, déjà, l'idée, un concept qu'on essaye de diffuser doucement dans les négociations, et on a des alliés pour ça, c'est l'idée de convergence. De dire qu'effectivement chaque être humain a le droit à la même part du gâteau, qu'il faudrait fixer des quantités limites de consommation de matériaux par humain et de la même façon des niveaux minimums qui définissent des droits. Et ce message de convergence des niveaux de vie, eh bien il y a des alliés assez surprenants, la Chine par exemple. Parce que évidemment ça fait leur intérêt vu qu'ils ont une population importante, l'Inde, le Brésil c'est un petit peu différent, mais en tout cas ça permet de débloquer, pour nous c'est une piste assez fructueuse qui peut permettre de débloquer. C'est une piste qui est complètement aussi dans l'optique du principe de responsabilité partagée mais différenciée qui est effectivement en train d'être sabotée à Rio. Et voilà, c'est quelque chose qu'on continue de travailler avec les Nations Unies. On a réussi à impulser plusieurs études justement pour évaluer des seuils maximum de consommation par habitant. Donc malheureusement, effectivement, c'est vrai que pour l'instant, le rapport de force penche pas en notre faveur et il est beaucoup plus du côté de marché ou de compensation qui explose ses limites que de notre côté. Soutenir les luttes locales, je crois que ça c'est essentiel. Ça peut paraître dérisoire parfois quand on se mobilise. Je vais donner l'exemple de Port-la-Nouvelle où il y a un collectif qui s'est battu contre une usine d'huile de palme. Cette usine devait importer de gigantesques quantités du Libéria, d'huile de palme. C'est essentiel de se battre parce que si on arrive à stopper ce type de projet, si on arrive à rendre visible ce qui se passe au Libéria ou dans d'autres pays et faire en sorte que ces communautés aient une reconnaissance de leurs droits, pour elles, ça change tout. D'un seul coup, vous pouvez effectivement vous adapter beaucoup plus facilement et résister à cette vague d'entreprises qui est en train d'arriver. Donc, toutes ces luttes locales et ces caisses de résonance qu'on peut faire entre le Sud et le Nord, elles sont fondamentales, elles sont vraiment fondamentales. Je finis là-dessus. Effectivement, comme le disait Geneviève, on ne va pas attendre le grand soir et la fin du capitalisme pour pouvoir engager la transition. Il y a déjà plein d'alternatives qui sont en train de se mettre un petit peu en place. Pour nous, l'enjeu, c'est de les rendre visibles et de montrer leur convergence. Le monde qu'elle dessine. Je parlais de la question de l'eau. Il y a des municipalités en France, par exemple, qui ont mis en place une tarification progressive où les premiers mètres cubes d'eau sont gratuits ou à prix dérisoire. Donc, ce qui répond bien à cette notion de droit à l'eau. Et puis, progressivement, ça augmente. Et à un moment, stop. On surconsomme, c'est stop. Voilà. Comme ça serait l'idée aussi un petit peu du bonus-malus pour les voitures. Sauf qu'à un moment, on dit pas si vous pouvez acheter une voiture qui émet 160 grammes de CO2 par kilomètre, vous payez pas un malus. Mais on vous l'interdit. On arrête de mettre des véhicules en circulation qui polluent trop. Les AMAP, juste pour finir, ça c'est vraiment important. Exemple de convergence de lutte locale qui sont en train de faire changer le système. Aujourd'hui, dans un marché public, vous n'avez pas le droit de demander un produit local. parce que c'est contraire aux règles de concurrence. Et les AMAP ont fait complètement bouger les choses. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de collectivités qui ont voulu mettre en place des cantines bio et locales. Et donc, elles ont mis ça dans leur cahier des charges. Alors, les premières, ça a engrassé les dents parce qu'on n'a pas le droit de mettre clairement local. Mais il y a une telle multiplication de ces initiatives qu'aujourd'hui, le législateur est devant une impasse et qu'on est en train de faire bouger le cadre réglementaire comme ça. La multiplication de ces alternatives, mettre devant le fait accompli que oui, c'est possible de manger bio et local, on est en train, par une démarche d'alternative de la base, de changer le système vers le haut. Et je suis sincèrement convaincu, sinon je serais pas là, que sur les questions des inégalités, sur les questions des biens communs, on peut rendre visible qu'il est tout à fait possible de s'organiser différemment. Sur l'accès à la terre en France, la problématique de l'installation des agriculteurs et autres, il y a foisonnement d'alternatives, que ce soit avec Terre de Liens ou des collectifs citoyens ou sur l'énergie. Donc maintenant, je crois que c'est à nous de rendre visible ça pour créer ce rapport de force et montrer qu'on est la marchandisation du vivant, c'est pas le seul horizon. Et en tout cas, c'est pas le futur que nous voulons, ce qui est dessiné à Rio. Voilà.
Quelque chose qui a été simplement esquissé, c'est la montée des acteurs privés dans cette économie verte, la montée des acteurs privés, que ce soit du côté des ONG de conservation qui vont jouer un rôle fondamental dans cette économie-là, mais également une montée des acteurs économiques privés dans les programmes internationaux, notamment onusiens. Si là aussi vous pouviez donner quelques exemples, ce serait super.
Quand il n'y a pas un sou d'argent public qui est dédié à la lutte contre le changement climatique, contre l'érosion de la biodiversité, etc. On fait appel à qui ? On fait appel aux fonds privés. Aujourd'hui, l'économie verte, c'est strictement des fonds privés, fonds industriels et fonds financiers. Si bien que, pour le sommet de l'ONU à Rio, on n'a jamais vu une telle présence dans des sommets de l'ONU des intérêts économiques et financiers. Il y a plus de 2000 inscrits d'un organisme qui s'appelle le Global Compact, hein, qui a été créé dans le cadre de l'ONU, qui est une association d'entreprises. Il y a 1500 inscrits aujourd'hui d'une autre grande association internationale qui a été créée au moment de Rio 92. Hein, c'est une association d'entreprises sur le développement soutenable. Ils sont 1500. La Chambre de commerce internationale, ils sont 800 inscrits dans les négociations. Pas à l'extérieur, pas dans le sommet des peuples, hein, dans les négociations. C'est logique. Qui aujourd'hui a les moyens de parler d'économie verte, de faire les investissements Donc là, je pense que il faudra le dire. Alors ça sort aujourd'hui de plus en plus dans la presse. On va nous travailler beaucoup là-dessus, parce que là, c'est très grave, hein, parce que nous avons l'ONU, est certes critiquable sur des tas de sujets, mais par rapport au G8, par rapport au G20, c'est quand même la seule instance légitime, c'est le G192. On ne peut pas accepter que l'ONU soit privatisée aujourd'hui. Et justement, la focalisation sur l'économie verte accélère la privatisation de l'ONU.
En conclusion à la journée de débat, la nature est un bien commun, non à leur économie verte. Voilà les commentaires de Jade Lingart, journaliste à Mediapart, suivi de Sophie Chapelle de Bastamag.
Je trouve très intéressant en fait toute la discussion de départ sur, en gros, les différentes définitions de l'économie verte. Et on voit bien qu'au fond, l'économie verte, mais comme plein de systèmes de pensée, elle est très très bonne pour élaborer des scénarios. Et des scénarios qui sont parfois un peu de la science-fiction. C'est-à-dire qu'on voit bien, et ça on sait, depuis plusieurs années, alors peut-être que c'est 10 ans, peut-être que c'est un peu plus, il y a une production massive d'études scientifiques ont été cités à certains moments sur tous les modes d'évaluation économique des services écosystémiques. Il y a énormément d'articles scientifiques là-dessus, il y a beaucoup de rapports. Pareil sur le paiement de services environnementaux. Bon, il y a toute une élaboration en gros intellectuelle et conceptuelle qui est faite, est aujourd'hui l'objet des critiques de l'économie verte, comme elles ont été faites aujourd'hui. Mais je crois que le point que certains d'entre nous ont voulu faire, c'était de dire cette élaboration existe, mais pour une grande part, elle n'a pas été mise en œuvre. C'est-à-dire que, et elle n'a pas été mise en œuvre pour plein de raisons, mais notamment parce que ce sont des édifices qui sont tellement parfois délirants qu'ils ne sont pas opérants. Et donc, il semble que face à cette... Et, que, et au fond, on risque parfois d'être un peu pris par une sorte de fascination pour ces scénarios théoriques et conceptuels qui sont bien sûr intéressants, qu'il faut critiquer, etc., et qui parfois prennent le pas sur un regard, je dirais, plus, pas forcément plus concret, c'est pas un problème d'abstrait versus concret, mais peuvent prendre le pas sur un travail finalement peut-être plus modeste, quoi, de regarder concrètement sur le terrain. Or, quand on regarde concrètement sur le terrain, il y a évidemment beaucoup de choses qui sont déjà présentes, nocives, problématiques. La jeune chercheuse là tout à l'heure, la thésarde, citait la question des conflits d'intérêts dans la recherche, qui est quand même, quand même assez déterminante. Il y a la question de l'extractivisme qu'on a cité, la dépendance aux énergies fossiles, les conditions de travail dans les énergies renouvelables. Enfin, je ne vais pas faire une liste, elle serait beaucoup plus longue à faire que celle-là. Ce que je veux dire juste, c'est voilà, il me semble que l'une des difficultés, en tout cas, de la critique de l'économie verte, c'est pouvoir à la fois s'adresser à un discours théorique comme ça, qui en plus peut exercer un vrai pouvoir de fascination, positif ou négatif, mais au risque de créer un peu une sorte de décor ou de train fantôme qui cache un peu finalement des pratiques réelles tout autant problématiques. Et donc face à ça, il y aurait peut-être un enjeu, alors c'est sûrement une déformation de journaliste de dire ça, mais un enjeu de rassemblement de faits et presque de politique du réel, quoi, avec, et qui pourrait aller avec une exigence de transparence, un droit à l'information, etc., qui permet de mieux décrypter et de distinguer ce qui est de l'ordre du projet un peu fou de ce qui est vraiment en train de se mettre en place.
Je vais essayer de faire bref. Ce qui m'a interpellée, notamment, c'est que c'est une question... Qui a été notamment mentionné ici, c'est que ceux-là même qui ont posé les problèmes sont en train aujourd'hui d'essayer de nous donner les solutions. C'est assez emblématique sur la question de l'agriculture industrielle. Ceux-là même qui ont porté cette agriculture industrielle, qui, dans les dernières décennies, nous ont imposé progressivement ces semences brevetées, ces collections dans lesquelles ils puisent, ces collections de variétés végétales dans lesquelles ils puisent pour progressivement déposséder les communautés locales de leurs savoirs ancestraux, aujourd'hui sont en train de nous apporter une agriculture qu'ils appellent la climate smart agriculture, l'agriculture intelligente au service du climat. Effectivement, cette agriculture-là, elle n'est pas encore officielle, en tout cas. Après la conférence donc la dernière conférence en décembre à Durban, donc la 17e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, certes, cette proposition-là n'a pas été entérinée, mais il y a un groupe de travail qui s'est constitué et qui devrait nous faire des propositions très concrètes d'ici sous un an, donc la prochaine conférence à Doha en décembre 2012. Et par rapport à ça, un élément qui n'est pas du tout revenu finalement dans cet après-midi-là, mais c'est peut-être la constitution des ateliers, les thèmes qui ont fait que ça n'a pas été abordé, c'est la question des droits de la nature. On a tout à l'heure dans la plénière, quelqu'un est intervenu en disant qu'on parlait pas seulement des droits des êtres humains, on parlait aussi des droits de tous les êtres vivants. Et en Équateur notamment, la question des droits de la nature a été intégrée dans la constitution équatorienne. Et ce qui est très intéressant, même si elle prête à beaucoup de polémiques, c'est qu'elle a le mérite de nous interroger sur le rapport qu'on a à elle, la façon dont on se positionne par rapport à elle. Et c'est vrai que cet après-midi-là, on l'a évoqué à aucun moment. Donc ça m'interroge. Voilà.
Savoir à quoi ressemblera le monde dans 10 ans. Asseyez-vous sur mon divan, je sors ma boule en cristal durable. Voilà le tableau du futur probable. On aura des centrales nucléaires durables qui produiront des déchets atomiques durables. On aura des ghettos durables, des CRS durables, une politique ultra sécuritaire durable avec des puces RFID durables partout. Tout sera fiché dans des data centers durables. Les incinérateurs d'ordures durables valoriseront les déchets en dioxine durable. durable. Sur des millions d'hectares de monoculture durable, toutes les surfaces de terres cultivables, des pays en voie de développement durable, il y aura que du soja OGM durable pour faire le biocarburant des 4x4 durables, qui sur des 4x4 voies éco-compatibles autour des mégapoles éco-responsables vont faire monter l'effet de serre durable.
C'est le blabla durable des communicants minables, des publicitaires experts en greenwashing.
La sécu, les retraites, c'était pas durable. Les services publics non plus, c'était pas durable. On va plutôt investir dans les tasers durables. Et les pauvres, on les mettra dans des prisons durables. On va mettre aux frontières des barbelés durables. On va expulser Mbaye, un charter durable. On aura que des mutuelles chères, mais durables. Pour nos Alzheimer durables, nos chimios durables. On continuera à mettre nos milliards durables dans les budgets colossaux de nos armées durables, grâce auxquelles on maintiendra des dictatures durables pour continuer en Afrique, le pillage durable, déforestation, désertification durable, tous les ingrédients d'une bonne famine durable, à les entendre polluer moins, c'est sauver la terre, voilà l'équation, cherchez l'erreur.
C'est le blabla durable des communicants minables, des publicitaires experts en greenwashing. C'est le blabla, c'est le blabla durable des communicants minables, méfiez-vous de l'arbre qui cache la machine.
On va faire des déchets de plutonium vitrifié qui vont durer 20 millions au lieu de 30 millions d'années. On va mettre des géraniums sur les radars. On va chanter tous ensemble. No more marée noire. No more marée noire. No more marée noire. Yann Arthus, Bertrand et Nicolas Hulot iront dans leur ministère en hélico durable. Et pour leurs efforts louables, Nestlé, Total, Areva et Aventi seront un prix Nobel. Prix Nobel de quoi? Mais t'as pas suivi ou quoi? Prix Nobel du fameux développement durable. On va se racheter le droit d'émettre du CO2 sur les marchés boursiers et de l'économie durable. Les pollueurs payeurs vont faire des hôpitaux et soutenir les fondations pour un monde durable. Mais quand tu as grandi vers la Vera ou Panto, tu sais que certains les faits sont pas réversibles.
Nous sommes maintenant en ligne avec Christophe Aguiton, membre d'ATTAC, qui s'est rendu au sommet de la Terre de Rio et qui a bien voulu partager avec nous son expérience et ses analyses. Christophe, est-ce que tu peux nous dire comment s'est déroulé le sommet, à la fois au sein du forum officiel, mais aussi au sein du forum de la mobilisation contestataire ?
En fait, il y a eu trois choses en parallèle. Deux au même endroit, une troisième dans un autre lieu de la ville. Il y a eu d'une part évidemment le sommet de l'ONU lui-même, hein, bon, qui est un sommet de chefs d'État et de gouvernement pour ceux qui ont bien voulu venir, hein, ce qui n'était pas le cas de tous, c'est loin de là, et sinon d'ambassadeurs ou de ministres. Donc c'est vraiment un sommet interétatique assez classique. Mais c'est un sommet qui, depuis l'origine, depuis Rio en fait, s'est ouvert à des tas de participants de la société civile, entre guillemets, qui peuvent être des ONG, mais qui sont aussi des entreprises, qui sont des scientifiques, le GIEC en étant la partie la plus connue, qui peuvent être, bref, toute une série d'acteurs dans une logique de multi-stakeholders, c'est-à-dire de plusieurs catégories de participants aux discussions, même si en finale, les documents sont adoptés uniquement par les États. Donc on a eu donc ce sommet de l'ONU interétatique, et autour de ce sommet de l'ONU, au même endroit, dans le centre de conférence, il y avait toute une série d'autres activités organisées principalement par des ONG et des acteurs de la société civile. Et puis, loin de cet endroit-là, qui se tenait dans la partie nord de la ville, hein, le sommet de l'ONU était un grand centre de conférence assez loin du centre-ville, en plein centre-ville, là où la société civile s'était réunie en 92 et où on avait vu donc l'émergence de ces ONG, ces coalitions environnementalistes, écologistes, s'est tenu un contre-sommet là plus militant, faut penser que plus de 50 000 personnes y ont participé. Et ce qui conforte l'idée de ce chiffre, c'est le fait qu'il y a eu une manifestation de critique, disons, de l'économie verte, des thématiques portées par le sommet, en tout cas ce qu'on craignait, ou adoptées par le sommet. Et cette manifestation en plein centre de Rio, pourtant sous une pluie battante, a réuni plus de 50 000 personnes, entre 50 et 100 000 personnes, avec beaucoup de militants sociaux du MST, du mouvement des Santerres et de la Via Campesina, mais aussi des syndicats. Une manifestation considérée par les organisateurs brésiliens comme une des plus importantes manifestations de contestation organisées ces dernières années au Brésil.
Ok, merci beaucoup. Alors, vu depuis la France, on a eu l'impression que le message des grands médias, c'était principalement que le sommet de Rio était un échec. Est-ce que ça veut dire que l'économie verte n'a pas généré le consensus promis ? Est-ce que ça veut dire qu'on est encore dans un paradigme du développement durable ? Qu'est-ce que t'en comprends ?
Écoute, il y a plusieurs degrés de discussion. Bon, si on prend d'un point de vue global à l'échelle de 20 ans, l'échec est dramatique. C'est-à-dire qu'en 92, quand le premier sommet de Rio s'était tenu, hein, qui était en fait le troisième du sommet pour la Terre, toute une série de grandes décisions avaient été prises. Hein, un lancement d'un processus de négociation sur le climat, un autre sur la biodiversité, et beaucoup d'espoir qui était porté tant par la société civile et les mouvements militants que par beaucoup d'États, dans l'idée qu'enfin la conscience environnementale s'imposerait à tous et à toutes. Bon, 20 ans après, le bilan est désastreux, évidemment, rien n'a été fait ou quasi, donc une situation d'échec global. De façon plus conjoncturelle et plus liée à ce sommet-là, hein, celui de 2012, il y avait une pression assez forte d'un certain nombre d'États, un petit peu le Brésil, mais surtout les Européens, pour faire adopter une résolution qui mettrait en avant l'économie verte comme un des nouveaux paradigmes qui permettrait, sinon de sortir de la crise, mais du moins d'aider à la résolution de la crise, tout en essayant d'apporter des solutions aux problèmes environnementaux. Cette économie verte était donc portée par l'Union européenne, mais aussi par des institutions internationales, en plus du Brésil, comme la Banque mondiale, l'OCDE et le Programme pour l'environnement des Nations unies. L'idée était de considérer que les services environnementaux rendus par la nature, hein, par exemple fournir de l'oxygène ou stocker du carbone, devaient être intégrés dans les processus industriels et dans les différentes façons de faire des acteurs, que ce soit les États ou évidemment les entreprises. Voilà, c'était ça l'idée. Bon. Et derrière ça, l'idée était d'en faire un marché, hein, et de considérer qu'on pourrait comme ça acheter ou plutôt compenser ce qu'on émettrait comme gaz à effet de serre, par exemple, en achetant un bout de forêt quelque part, ou en protégeant un bout de forêt quelque part. Voilà, ça, c'était l'idée centrale de l'économie verte. Bon. Pourquoi est-ce que... Alors ça, en effet, a capoté en grande partie. C'est-à-dire que le texte final ne contient que des banalités, absolument rien, y compris rien sur l'économie verte, où à chaque fois qu'il y a économie verte, c'est mis comme une des solutions possibles, au même titre que le développement durable. Bref, c'est complètement marginalisé, ce qui pour nous est plutôt bien. Hein. Bon, si l'économie verte avait été acceptée comme un nouveau paradigme, ça aurait en fait augmenté le caractère financier des solutions environnementales. Ça aurait continué, disons, à faire jouer à la nature. Là, enfin pas continuer, ça aurait permis de, disons, de marchandiser et de financiariser la partie de la nature qui ne l'était pas encore jusque-là, hein, c'est-à-dire toute la partie non cultivée ou non extraite des forêts sous forme de bois, parce que là, tout serait rentré dans les circuits financiers, ce qui n'était évidemment pas notre proposition, je pense à l'attaque aux Amis de la Terre ou aux associations de ce type, donc c'est pour ça qu'on était violemment contre l'économie verte. Mais si ça a capoté, c'est pas simplement parce qu'on s'est combattu cette notion et qu'on s'est mobilisé. Ça a aidé, hein, le fait qu'il y ait beaucoup de manifestants qui souhaiteraient hostile à l'économie verte, que beaucoup de tracts, de bouquins, d'articles soient sortis sur ce sujet, que la presse les relayait. Ça a probablement joué un rôle, mais deux autres acteurs ont aidé aussi à ce que ça capote. Hein. Bon, d'une part, certains grands États, en particulier États-Unis, Canada, qui n'ont pas mené une bataille frontale contre, mais qui ont quand même bien savonné la planche de l'économie verte, au nom d'un argument assez simple, hein, c'est de considérer qu'en particulier en période de crise économique comme celle que nous traversons aujourd'hui, internaliser des externalités, hein, ce qui est le principe même de l'économie verte, c'est en fait renchérir les prix. C'est-à-dire que si, par exemple, une compagnie aérienne doit compenser les émissions de gaz à effet de serre qu'elle produit en brûlant du kérosène, et bien, c'est-à-dire que le prix du billet vendu au client est évidemment augmenté d'un certain pourcentage, d'une certaine somme qui correspond donc au coût de cette économie verte. Donc ces pays-là n'étaient pas chauds du tout, on peut s'en douter, et puis à ceux-là se sont rajoutés beaucoup de pays du Sud qui ont eu peur que ce soit en fait un moyen de mettre la main sur leurs matières premières et sur leurs richesses naturelles, que ce soit un moyen de contrôle en fait par le biais des mécanismes de marché, des mécanismes de financiers sur leurs propres ressources et donc d'une certaine façon sur leur souveraineté. Donc c'est cette alliance, enfin cette alliance, cette conjonction plus exactement de critiques, celle des mouvements militants comme les nôtres, celle de pays qui ne voulaient pas augmenter le prix et ceux qui tenaient à sauvegarder leur souveraineté par-dessus tout, qui explique pourquoi l'économie verte a capoté, en tout cas à cette étape, hein, les institutions internationales vont revenir dessus, mais à cette étape, ça a capoté à Rio, ça c'est sûr.
Ok, merci, très bien. Et donc au final, quelles conclusions politiques ont été tirées du sommet pour les groupes militants et quelle est la prochaine échéance pour les luttes?
C'est un des gros problèmes et une des choses qui étaient les plus faibles du point de vue militant. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une déclaration qui a été adoptée à la fin du processus de Rio, du sommet des peuples, hein, je ne parle pas du processus officiel, bon, qui n'est pas mauvaise, mais qui est très générale, qui ne dit pas des choses très précises. Et pour l'instant, nous n'avons pas d'agenda encore construit. Hein, bon, et il faut bien voir que cette crise de Rio n'est pas qu'une crise de Rio au sens sommet de la Terre. C'est une crise de tous les processus internationaux liés à ce qui était sorti de Rio en 92, en particulier deux cycles de négociations, un sur la biodiversité et un qui était peut-être le plus important, en tout cas qui a mobilisé beaucoup de monde, qui est celui sur le climat. Bon, sur le climat, après l'échec de Copenhague, on a eu un échec de Durban qui avait été précédé de l'échec de Cancun. Donc là, la dernière réunion, donc celle de Durban, a décidé qu'en fait, rien ne serait décidé avant 2016 ou 2015-2016 et que les prochains sommets, le prochain ayant lieu à Dubaï en décembre cette année, seraient uniquement des sommets intérimaires qui permettraient de faire avancer un peu les dossiers sans chercher à obtenir un accord. Bon, donc on a vraiment des échecs cumulés, si on peut dire. Rio, qui est le processus global, mais aussi les processus plus spécifiques sur biodiversité et climat. Et pour l'instant, du point de vue des réseaux militants, on n'a pas de cadre qui soit très satisfaisant. On avait un cadre qui était celui des forums sociaux, qui est un peu en perte de vitesse, en tout cas au Brésil, hein, c'est pas le cas partout, hein. Il y a un gros forum qui se prépare à Tunis en 2013, mais en Brésil, c'était un peu faible. On a aussi une coalition qui s'appelle Climate Justice Now, qui est l'idée de lier les combats écologiques aux combats sociaux, mais elle est fragilisée par l'échec même des sommets sur le climat, parce qu'il n'y a pas grand-chose à y faire et à y défendre. Donc, il y a toute une réflexion qui commence au sein des mouvements militants pour savoir comment reconstruire un agenda et des coalitions qui soient vraiment efficaces sur ces questions-là.
Ok, merci beaucoup, Christophe.
Rio plus 20 enterre donc les droits fondamentaux qui avaient été avancés 20 ans plus tôt. La conférence ne s'est conclue sur aucun engagement contraignant pour les États. Elle entérine l'effondrement du multilatéralisme, l'affaiblissement du rôle des Nations Unies à fixer des politiques et des normes internationales qui mettraient un frein au productivisme et à l'extractivisme des pays les plus riches. Et si l'économie verte n'a pas fait une entrée massive à Rio plus 20, il ne faut certainement pas s'y tromper. La déclaration adoptée compte bien prioritairement sur les mécanismes de marché pour résoudre la crise environnementale. Gardons donc les yeux ouverts du côté de la sphère financière et des multinationales, à qui le champ est laissé libre et qui ne manque pas d'esprit d'innovation en matière de marchandisation du vivant et de privatisation des biens communs. Pour compléter sur ces points le bilan de Rio plus 20 que vient de nous faire Christophe Aguiton, nous vous invitons à écouter l'interview de Maxime Combes, faite par la bande à Bébert dans la dernière émission de Zoom Écologie, et que vous trouverez sur notre site internet zoom-écologie.net, site où cette émission sera bientôt également téléchargeable ou directement écoutable. Nous remercions les organisateurs de la journée pour les débats « La nature est un bien commun » de nous avoir communiqué leur bande-son. Et merci à vous de nous avoir écoutés.